je suis vraiment contente en fait de ce qui s'est passé après MeToo. L'héritage d'une société, on va dire patriarcale, se voyait surtout dans les réactions que les femmes avaient. On avait honte. Et là, on n'a plus honte quand on dit non, c'est non. Notre jugement est tout à fait fondé. Et je pense que ça, ça a vraiment été la reprise en main des femmes, de leur propre liberté. Et ça, c'est vraiment un critère d'émancipation à mes yeux.
Il y a juste 2 ans, dans la foulée des accusations de harcèlement et de viol portées contre le très puissant producteur de cinéma Harvey Weinstein, l'actrice américaine Alyssa Milano avait exhorté toutes les femmes à dénoncer sur Twitter, avec le mot dièse MeToo, moi aussi, toutes les atteintes sexuelles dont elles avaient été victimes. Un mouvement quasi planétaire de libération de la parole des femmes s'est alors enclenché. Sa traduction française, « Balance ton porc », initiée par la journaliste Sandra Müller, allait provoquer une prise de conscience aussi chez les hommes.
Clairement, je n'imaginais pas que autant de femmes pouvaient subir autant d'agressions et qu'elles avaient de fait autant besoin d'exprimer.
En 2016, en France, le ministère de la Justice avait recensé 32 700 plaintes pour violences sexuelles. 73% d'entre elles ont été classées sans suite. Depuis, MeToo a incontestablement ouvert un débat jusqu'alors occulté. Des couples se sont questionnés, des femmes ont osé s'exprimer, des hommes ont remis en cause leur conception même de leur rapport aux femmes.
Quand on essaye de séduire, nous les hommes, des femmes, est-ce qu'il y aurait un désir de possession? Est-ce que c'est un désir de démontrer une supériorité? C'est vraiment la première réflexion que ça m'a apporté.
Pourtant, si la vague a été puissante, notamment grâce aux réseaux sociaux et à la presse, 2 ans après, l'expérience montre qu'il reste encore du chemin à parcourir avant de parvenir à l'égalité. Chez les jeunes, des notions aussi simples que celles de consentement sont encore floues, voire inexistantes.
Le non-consentement, c'est quand la fille a dit non, mais le garçon lui dit oui. Il est obligé de respecter ses choix.
Tu le savais déjà ou tu l'as appris aujourd'hui ?
Je l'apprends aujourd'hui.
Avec ce reportage, MeToo, une révolution au quotidien, Géraldine Allot, avec Gilles Gallinaro à la prise de son, vous propose une plongée dans l'intimité des consciences, afin de voir ce qui a changé ou pas en 2 ans de libération de la parole et de travail des femmes pour essayer de se protéger.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Nous avons lancé un appel à témoignages sur les réseaux sociaux pour que les femmes et les hommes racontent ce qui a changé dans leur vie depuis MeToo, depuis fin 2017. Fanny nous a répondu, elle a 35 ans, elle est cadre dans une entreprise de nettoyage. Et là, elle va aller travailler, il est 7h30 du matin. Nous allons la suivre sur la ligne 13 du métro pour l'accompagner à son travail. Fanny, vous nous avez répondu à l'appel à témoignage sur les réseaux sociaux et une des premières choses que vous nous avez dites, c'est « ça m'a enlevé les œillères, mais tout ». Qu'est-ce que ça voulait dire ?
Je pense que j'avais conscience que j'étais pas la seule à avoir des remarques dans la rue, d'assister en tout cas à des choses pas très agréables et correctes, que ce soit dans les transports, dans la rue, au travail. Mais pour moi, c'était plus une sorte de fatalité. Et en fait, avec MeToo, je me suis dit, mais c'est pas du tout une fatalité. Et ça m'a vraiment encouragée plutôt à prendre la parole, et essentiellement vis-à-vis des hommes dans la rue qui peuvent m'arrêter, me faire des
réflexions. Prochain train dans 1 minute, le suivant dans 5 minutes.
J'hésite plus, moi, maintenant, à m'arrêter dans la rue et à dire à un homme qui m'a fait une réflexion, à lui demander de répéter. Généralement, bien évidemment, il ne répète pas, mais en tout cas, ça a vraiment changé, je pense, la position que j'ai, moi, vis-à-vis de ça. Pour moi, ce n'est plus une fatalité et je me sens OK pour en parler et pour m'affirmer aussi vis-à-vis de ça.
Notamment dans les transports en commun.
Ouais.
C'est pour ça qu'on est avec vous ce matin, donc on va rentrer dans la rame.
Toutes les filles ont des écouteurs, par exemple. Là, j'en ai pas parce que je suis avec vous, mais sinon, dans les transports, j'ai systématiquement des écouteurs et c'est le cas d'à peu près les quelques femmes qu'on voit là dans le wagon.
Pourquoi, selon vous ?
Je pense que c'est ce qu'on appelle les stratégies d'évitement, c'est-à-dire éviter d'entendre les réflexions. Enfin, il y a des fois où j'ai pas de musique, j'ai juste mes écouteurs, mais c'est plus à effet dissuasif, on va dire, vis-à-vis des hommes qui pourraient être tentés de faire des réflexions.
Là, à l'autre gauche, il y a un monsieur qui s'étale bien, à côté d'une maman.
Qui a trois enfants. Qui n'a pas pris la peine de se lever pour leur laisser la place.
Je ne prends pas non plus la peine de resserrer les jambes.
Non, effectivement. Il ne voit même pas, en fait. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas qu'il veut pas se lever, c'est que je pense qu'il ne voit même pas qu'il prend de la place et que là, en l'occurrence, il gêne. Et ce qui me marque vraiment maintenant, c'est en fait l'insouciance que les hommes ont dans l'espace en général. Et c'est super, hein, tant mieux pour eux. Pour le coup, ça serait juste bien qu'on ait tous la même insouciance, que les femmes puissent avoir la même. Mais c'est vrai qu'ils ont pas ou peu, ils sont peu à avoir cette conscience de la place qu'ils prennent.
Chacun prend du bon temps, suivant le tempérament. Moi j'en prends à gogo, dans ce sacré métro. De 5 à 7, moi j'y maraude. Je cherche vos quartiers de noblesse. Je joue au jeu de la main chaude. Pour vous servir, je suis pince-fesse.
Vous, vous êtes en couple, Fanny. Concrètement, qu'est-ce que MeToo a changé dans votre vie maritale, conjugale ?
Il y a des choses qui ont changé. Moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse un exercice très concret de comptabiliser ce que chacun fait pour mettre un peu fin aux discussions de « non, mais là, j'en fais plus, mais moi, j'ai l'impression d'en faire autant ». Donc ça, on l'a fait.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que sur un mois, on a compté chacun, minute par minute, le temps qu'on passait aux tâches ménagères, aux courses, à la vaisselle. Et il se trouve, alors moi, je pensais qu'on était à 60-40. Lui, il pensait qu'on était à égalité. Et il se trouve qu'en fait, j'en fais deux fois plus. C'est-à-dire que sur un mois, il avait fait 5h30 et moi, j'avais fait 11h40.
Maintenant, vous avez rééquilibré un peu les choses ?
On a juste fait le constat pour le moment. On n'a pas encore, c'était avant l'été, on n'a pas encore forcément trouvé de solution et je ne sais pas s'il y en a. Mais en tout cas, c'est venu mettre en lumière et venu mettre de la conscience sur des ressentis et permettre de les objectiver un petit peu. Et en fait, c'est déjà énorme, quoi. Pour moi, MeToo, c'est vraiment l'occasion d'avoir une réflexion ensemble, pas l'un contre l'autre, mais ensemble sur la vie quotidienne, quoi, toute la vie quotidienne. Et en fait, c'est hyper riche. Je le fais pas en me disant on va être dans un rapport de force, il n'y a aucune gloire à dire j'ai fait 11 heures et t'en as fait 5, surtout pas, mais de se dire qu'en fait on parle de ces sujets-là, on les vit, ils nous pèsent parce qu'en fait personne n'aime faire le ménage, enfin, c'est pas des tâches qui sont sympas, valorisantes, et en fait le fait d'en parler et de considérer qu'on a des décisions à prendre à deux sur ce sujet-là, moi je trouve ça super, et ça oui, ça c'est MeToo.
Ça, c'est pour l'aspect de la vie domestique. Et vous disiez que MeToo avait changé aussi votre vie intime avec votre conjoint.
MeToo a permis, en tout cas, je pense, d'avoir toute une production de podcasts qui font que, enfin, moi, je m'en nourris beaucoup. Et donc, forcément, ça vient aussi mettre un éclairage sur cette sphère intime. Et la question de pourquoi on fait les choses, pourquoi je suis en couple, pourquoi je me paxe, pourquoi j'ai des rapports sexuels qui ressemblent à ça. Et en fait, ça vient mettre de la conscience là où, en fait, il n'y en avait pas avant.
Vous avez un exemple à nous donner ?
J'ai lu un article, ça devait être avant l'été, de Maya Mazorette dans Le Monde, où elle parle en fait de déconstruire cette idée que sans pénétration, un rapport hétérosexuel serait raté. Et c'est vrai que le simple fait d'appeler les préliminaires des préliminaires, comme si c'était quelque chose avant et qui n'était pas complet et qui ne suffisait pas à lui-même. Et ça, c'est, pour moi, c'est un truc de fou, quoi, de me dire, mais en fait, oui, c'est vrai. On pense que si on n'a pas eu un rapport sexuel complet avec préliminaire, pénétration et qu'on considère comme terminé quand l'homme a eu un orgasme, pour moi, c'est quasiment impossible de lire ça et de ne pas interroger derrière sa propre sexualité. Pour le coup, moi, ça m'a aussi beaucoup libérée sur le fait de me dire, bah ouais, en fait, si on a un rapport et qu'il n'y a pas de pénétration, c'est aussi bien, quoi. C'est aussi ok. On n'est pas obligé de cocher toutes les étapes à chaque fois pour se dire, bon bah là, on a bien fait comme on nous a appris ou comme on nous a dit. Ça permet d'avoir une plus grande liberté et surtout moins de pression sur. En fait, il n'y a rien à réussir, quoi. Et je pense que c'est que le début, certainement. C'est comme les couches d'un oignon qu'on enlève. Pour réinterroger tous les rapports en fait entre les hommes et les femmes, que ce soit dans la sphère publique, au travail, dans la sphère familiale et jusque dans la sphère intime nécessairement.
Les couilles sur la table, épisode 39. En fait, la pénétration vaginale, c'est un moyen très efficace pour les hommes d'avoir des orgasmes, puisqu'ils y parviennent 9 fois sur 10.
Tu m'étonnes.
Par contre, pour les femmes, c'est seulement 26% des cas, en fait, des femmes qui arrivent à avoir un orgasme uniquement par pénétration vaginale.
Et ce qui est fou, c'est que si le rapport était inversé, je veux dire, si seulement 26% des hommes avaient un orgasme par pénétration, en pénétrant leur compagne, et ben c'est évident en fait que la norme sexuelle, ce serait pas la pénétration. La norme sexuelle, ce serait les caresses, celle de l'homme, ça serait, je sais pas, ça serait autre chose, quoi. Mais c'est...
Bah c'est ça ce qui leur donne le plus de plaisir.
Ah, voilà. Ouais. Mmh.
Nous sommes de retour dans le 17e arrondissement de Paris. C'est la fin de journée. Et nous avons rendez-vous avec Stéphane, c'est le mari de Fanny. Oui, c'est France Inter. Merci. Stéphane, vous êtes le compagnon de Fanny. On va vous poser la même question qu'à elle. Qu'est-ce que MeToo a changé dans votre vie ?
Moi, ça m'a révélé la souffrance qu'avaient un certain nombre de femmes. Et clairement, je n'imaginais pas que... autant de femmes pouvaient subir autant d'agressions, quel que soit le caractère de l'agression, et qu'elles avaient de fait autant besoin d'en parler, autant besoin de l'exprimer. Ça, ça a été une vraie révélation. D'un autre côté, ma crainte, c'était quand même que justement, ça devienne un peu un défouloir, trop rapidement, trop spontané.
Vous aviez peur que ça aille trop loin dans la dénonciation, c'est ça, sur les réseaux sociaux ?
Oui, ça c'était ma crainte, effectivement, c'est que ça devienne un défouloir, un élément de dénonciation, et voire à l'inverse, finalement, un moyen inversé de pression sur les hommes. Parce qu'on sait que dans les rapports hommes-femmes, il y a tout un tas de choses qui se jouent. Ça peut être des jeux de pouvoir, des jeux de séduction, dans un cadre public ou privé, enfin en tout cas, quelles que soient les circonstances. Donc j'avais quelques craintes, pour pas dire même des craintes fortes de ce point de vue-là.
Là, vous parlez au passé, est-ce que ça veut dire que ces craintes, vous ne les avez plus ?
Disons que le mouvement s'est installé, donc on est un peu plus habitué, il y a eu un certain nombre d'événements. Je crois qu'on a intégré ça dans notre mode de fonctionnement, on fait plus attention à la conduite qu'on peut avoir selon la personnalité des uns ou des autres.
Et justement, pour vous, personnellement, qu'est-ce qui a changé dans votre comportement ?
Je trouve que ça enlève une part de naturel, ça c'est clair. Ça limite une certaine bienveillance. Bon, je pense être plutôt jovial dans l'absolu. Mais typiquement dans un cadre professionnel, je m'oblige à faire maintenant aucune remarque, réflexion, aucun commentaire sur un élément qui concerne une femme. Partout où là où je me dis... ça pourrait être interprété comme étant sexiste. Et donc, pour éviter tout sujet, je ne fais pas de commentaires.
Vous ne diriez plus aujourd'hui à une fille « tiens, t'as une jolie robe ».
C'est exactement ça, au même titre que je ne dirais pas à la personne « t'as l'air fatigué » ou « t'as passé un mauvais ou un bon week-end ». J'évite ce genre de commentaires. J'évite les commentaires sur la tenue vestimentaire très clairement. Voilà, j'essaye finalement de neutraliser le plus possible la personne qui est en face de moi, en tout cas dans la discussion.
Dans votre vie de couple, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé de votre point de vue ?
Ah oui, ça c'est net. Les discussions sur les agressions, sur les différences de traitement, l'inéquité, toutes ces discussions-là sont quand même beaucoup plus présentes.
Sur la répartition des tâches domestiques, est-ce qu'il y a une évolution ou pas ?
Alors, non, il n'y en a pas, parce que je crois pouvoir dire que je participe beaucoup à toutes ces tâches dites domestiques, même si on s'est laissé aller à faire un petit jeu, c'est-à-dire à réellement mesurer sur un temps donné ce que l'un faisait et ce que l'autre faisait. Très clairement, ma conviction est que j'en faisais plus que ma compagne. Bon, les chiffres ont montré que c'était l'inverse, donc normalement les chiffres ne mentent pas. Et alors après, on parle d'un sujet de... vous avez un terme, je crois, un peu spécifique, mais en tout cas de pression morale ou quelque chose de...
charge mentale.
Charge mentale. Ça, c'est quelque chose qu'en revanche, j'achète, entre guillemets, beaucoup moins. C'est-à-dire que je crois que c'est un sujet qui est beaucoup lié à la façon dont on traite les choses, plutôt que sur qui s'occupe de quoi.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Clara ?
C'est ça, je suis Clara.
Clara, que nous allons rencontrer maintenant, a elle aussi répondu à notre appel à témoignage.
Bonjour. Oh, c'est joli ici.
Clara a 34 ans et il y a quelques années, alors qu'elle cherchait un stage dans la haute fonction publique, un homme qu'elle a rencontré à cette occasion a eu un comportement très déplacé à son encontre.
Alors, je suis vraiment contente en fait de ce qui s'est passé après MeToo, parce que les relations entre hommes et femmes, contrairement à ce qu'on a pu lire, je trouve se sont beaucoup détendues. On est beaucoup plus sereins les uns avec les autres. Au lieu de compartimenter nos émotions ou nos ressentis, on se dit les choses beaucoup plus simplement quand ça va pas. Quand on ressent, par exemple, chez les hommes des attitudes qui relèvent plus de l'escroquerie qu'autre chose, eh bien, on le lui dit tout de suite. Et surtout, gros changement même dans ma vie, sur un plan beaucoup plus personnel, je peux parler très librement de faits qui se sont produits, que j'ai subis, de harcèlement, voire d'agression à caractère sexuel, sexiste. En fait, la société s'est apaisée après ce mouvement, je pense vraiment.
Vous, il y a des choses que vous avez vécues et que vous avez révélées que grâce à MeToo ?
Oui, j'ai pu parler de ce que j'avais vécu et sans honte, au lieu de le garder pour moi. Et ça, je pense que c'est ce qui... On voit bien, du coup, grâce à ça, que les femmes entre elles ont beaucoup plus de solidarité. L'héritage d'une société, on va dire, patriarcale, se voyait surtout, je pense, pas seulement dans les attitudes sexistes, mais surtout dans les réactions que les femmes avaient. On avait honte. Jusqu'à présent, on avait honte. Et là, on n'a plus honte. On se dit, on est des femmes. Quand on dit non, c'est non. Notre jugement est tout à fait rationnel et tout à fait fondé. On a dit non, la personne a violé ce droit à reconnaître l'entendement d'autrui. On en parle entre nous de manière beaucoup plus libre. Et je pense que ça a vraiment été la force de ce mouvement. La reprise en main des femmes, de leur propre liberté. Et ça, c'est vraiment un critère d'émancipation à mes yeux.
Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qui s'est passé pour vous ?
Alors pour moi, plusieurs faits, déjà de harcèlement, de personnes qui se... des attouchements en milieu professionnel, en stage, parfois dans la haute fonction publique. Par exemple, j'étais venue prendre un café et pareil, la personne s'est permise de me faire un attouchement qui n'était pas d'une violence inouïe, mais qui m'a laissé une marque parce que je me suis dit ce n'est pas la direction que je voulais donner à cet entretien. Et après, il n'y a pas eu de suite. J'ai pas vécu de faits gravissimes comparé à d'autres femmes, mais c'était déjà frappant.
C'était une main aux fesses, en fait, ce qui vous a...
C'est ça. Alors tout ça, bien sûr, c'est pas forcément des événements douloureux physiquement, parce qu'il faut faire la part des choses. Mais c'est la douleur morale de se dire, il passe outre, pas seulement mon consentement, mais tout simplement le fait que je suis une personne qui ne suis pas disponible à tout instant. C'est pas agréable parce qu'on se dit, mais je n'existe plus, je suis qu'une chose. C'est surtout ça qui est violent, que à la limite la main soit sur la fesse ou sur la... C'est la façon de le faire. Et de se dire, elle va être à ma disposition. Heureusement, il n'y a pas eu de suite et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des femmes qui vivent des histoires le type harcèle et continue et tout ça. J'ai pas eu ça. Donc c'est vraiment, on va dire vraiment le degré 1 sur une échelle de 100. Mais même ça, on se dit, mais eh oh, c'est pas permis.
MeToo a donc considérablement changé la vie de certaines femmes, soulagées de pouvoir désormais s'exprimer plus librement. A contrario, on entend le discours d'hommes qui déclarent avoir perdu une partie de leurs repères, ne plus savoir gérer leur rapport avec les femmes. Pour la suite de son reportage, Géraldine Allot a donc rencontré Catherine Blanc, une sexologue qui entend hommes et femmes dans ses consultations.
Interception sur France Inter.
Catherine Blanc, donc vous êtes psychanalyste, thérapeute de couple, sexologue. Qu'est-ce que MeToo a changé dans les relations entre les femmes et les hommes ?
Ça a évidemment permis aux femmes de mieux faire valoir leur droit à parler, à revendiquer une liberté de désir ou de non-désir, sans avoir nécessairement besoin de symptômes. Alors c'était déjà le cas un petit peu avant, on n'est plus obligé d'évoquer une migraine pour que la sexualité par exemple ne se fasse pas, mais malgré tout là ça s'est verbalisé autrement et peut-être plus librement. Donc du côté des femmes, c'est une chose formidable. Quant avant, alors là je remonte à très loin, il y avait le sujet de la sexualité qui était un sujet masculin, quand il y avait le sujet de la parentalité qui était le sujet en fait de maternité qui était donc féminin, et qu'au milieu de tout ça, il y avait une sorte de compromis pour répondre aux désirs des deux.
Donc c'est un effet plutôt positif.
Oui, bien sûr. Pour autant que tout d'un coup, on mette en avant que cette réflexion fasse les uns des victimes, les autres des bourreaux, ça ne va pas. Ou en tout cas, c'est une autre interrogation que nous devons avoir. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est que les hommes ne savent plus comment ils doivent fonctionner. Pour certains, ils verront dans toute l'expression de leur virilité le risque d'une violence faite aux femmes. Parce que à partir de quand se fait la violence d'un individu à l'autre, ce n'est pas la même chose. On sera tous d'accord de dire que violer une femme est une violence qui lui est faite, mais il y a toutes les autres situations de la vie de tous les jours, de « j'ai envie de toi », qui peut être perçue par une femme comme étant « il me colle » ou « il me harcèle », même si c'est mon mari d'ailleurs, quand pour lui, il dit juste « t'es belle et j'ai envie de toi ». Et en quoi c'est une violence pour cette femme ? Pour une femme, ça le sera, pour une autre femme, ça le sera pas. Donc, comment un homme peut savoir ce qui est dans l'esprit de cette femme ? C'est-à-dire que si, par exemple, je passe à côté de ma femme en lui posant ma main sur son épaule, eh bien, moi, je passe ma main sur son épaule ou la prenant par la hanche parce que j'aime ma femme. Et de l'une, il s'agira d'une prise de possession du corps ou d'une peur que cette main glisse jusqu'à mon sein de par son histoire personnelle, quand une autre, elle y verra toute la chaleur et la tendresse de son mari pour elle. Comment un homme peut s'y retrouver ? Et évidemment, tout le phénomène MeToo, qui est un phénomène de justice sociale, met les hommes dans une grande confusion et une grande inquiétude quant à cette confusion.
Si on prend par exemple le milieu professionnel, une femme n'a pas forcément envie d'entendre un homme lui dire « je te trouve super désirable, t'as un beau décolleté ». Enfin voilà, c'est une femme peut percevoir ça comme une agression.
Vous avez dit, une femme peut le percevoir comme ça, en effet. Donc vous avez raison, une femme doit pouvoir se promener dans la rue, doit pouvoir faire ses lacets sans avoir peur qu'on regarde ses fesses, et que tout ça est fatigant d'être toujours renvoyée à une image corporelle. Pour autant, est-ce que ne pas exister avec un corps est plus rassurant ? À certains moments, oui, mais à d'autres, non. Toutes les femmes ne fonctionnent pas pareil, et tous les hommes, en étant flatteurs, ne sont pas... Tu es très jolie, j'ai envie de toi. Et d'ailleurs, toutes les femmes ne font-elles pas œuvre à l'occasion d'une séduction, pas à but de plaire sexuellement, à but d'être vue, reconnue et reconnue femme. C'est toute la difficulté de nos positionnements humains.
Qu'est-ce qui vous disent les hommes que vous recevez ?
Ils savent plus quels sont les codes aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, un jeune homme qui me disait « Maintenant, je peux pas inviter une fille à boire un verre parce qu'elles veulent absolument me payer leur verre. » Il me disait « Ce que je comprends pas, moi je voulais juste être gentleman, ce que je comprends pas c'est qu'elle croit que si je lui offre un verre, elle est obligée de coucher avec moi. » Tout passe par une idée d'un risque. Si j'accepte de boire un verre, il faut que je accepte un verre mais pas un dîner, parce qu'un dîner, c'est plus impliquant et ça voudra dire que derrière, je dois coucher avec lui. Et les hommes qui disent « Donc, il faut qu'on boive je vais inviter qu'un verre. » Et alors après, j'entends les femmes qui me disent « Il m'invite qu'un verre, c'est pas très élégant, il aurait pu m'inviter à un dîner, c'est-à-dire qu'il veut faire très court, c'est quelqu'un qui doit faire ça à la chaîne. » C'est-à-dire qu'il y a un véritable malentendu. Bien sûr qu'il y a des fautes à pointer. Bien sûr qu'il y a des actes intolérables. Bien sûr qu'il y a des mots inapproprié. Mais on peut dire, mais tu entends ce que tu es en train de me dire ? Et puis l'autre réaliser que effectivement, ce n'est pas concevable et du coup, les choses évoluent. Tout ça existe, mais nous avons aussi à réfléchir très en amont, puisque nous avons à réfléchir la société de demain, qui n'est pas que celle qui pointe, qui punit, et donc qui fait peur à ceux qui auraient peur d'être à leur tour pointés ou punis, mais aussi comment on fait grandir les uns et les autres à nos côtés.
Nous sommes à Torigny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, pas très loin d'Euro Disney. Et un homme de 37 ans a accepté de nous raconter ce que MeToo avait changé dans sa vie, et notamment dans sa façon d'aborder les femmes. Bonjour, vous allez bien ? Géraldine, enchantée.
Bienvenue.
Nous sommes avec Sébastien, vous avez 37 ans. Vous êtes en couple depuis combien de temps ?
Depuis 7 ans et demi.
Et vous avez un enfant de 3 ans.
Voilà.
Qu'est-ce que MeToo a changé dans votre façon d'être avec les femmes, que ce soit votre compagne ou les autres femmes ?
Ça a plutôt changé ma vision du rapport homme-femme. Quand on essaye de séduire, nous, les hommes, des femmes, est-ce que c'est juste de la séduction ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres mécanismes un peu plus violents qui s'inscriraient là-dedans ? Est-ce qu'il y aurait un désir de possession ? Est-ce que c'est un désir de démontrer une supériorité ? Est-ce que c'est juste un jeu ? Est-ce que c'est vraiment que de la séduction ? C'est vraiment la première réflexion que ça m'a apporté. C'est tous ces rapports et ces histoires et mon rapport avec les femmes qui ont été remis sous un jour nouveau, en fait. Voilà.
Vous avez des exemples concrets à nous donner, qu'on comprenne bien ?
J'ai fait quelques semaines sur des applications de rencontres. Parfois, quand on tombe sur certains profils qui sont très attirants sexuellement ou très attirants, où il y a un désir très fort qui se fait, ben voilà, peut-être qu'on se dit juste ben j'ai envie de posséder ça, quoi. J'ai envie de posséder cette personne-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas séduire, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de relation d'asseoir. Je dis juste que peut-être que ce désir de possession, je parle chez les hommes, hein, pousse à des sentiments agressifs. Tous les comportements que dénonce MeToo, ben, c'est des comportements qui sont agressifs et c'est peut-être des comportements de possession, de valorisation, et je pense qu'il faut interroger ça. Interpeller une femme dans la rue, la harceler, et c'est vraiment une histoire de possession. D'ailleurs, quand la femme se refuse, il y a une frustration terrible de l'homme. La caricature, c'est qu'un homme va interpeller une femme et quand elle se refuse, va commencer à l'insulter. C'est tellement paradoxal que c'est pas juste pour lui plaire, c'est qu'il y a un désir de vouloir qu'elle l'appartienne. Et quand elle se refuse, c'est de la frustration de ne pas avoir eu ce qu'on avait envie, un peu comme un enfant, en fait.
Alors justement, vous qui avez un petit garçon de 3 ans, quand il sera plus grand, qu'est-ce que vous lui inculquerez comme valeur ?
Alors, c'est pas seulement quand il sera plus grand, c'est dès maintenant. Je me rappelle, il y a quelques semaines, il nous a dit que les filles pouvaient pas conduire de train, par exemple. Voilà, on est vraiment tombé de très haut avec ma compagne, puisque c'est pas du tout notre façon d'éduquer. D'ailleurs, à ce moment-là, j'en parle sur la table, il y a un livre très parlant.
C'est Le Camion de Léon. Donc ça, c'est un livre pour votre petit garçon dans la collection Fleurus, que les enfants connaissent bien.
Voilà, c'est Le Camion de Léon, qui est un petit garçon, et qui fait du camion, qui va sauver la fille. Donc bon, on pourrait se dire, bon, un pompier qui va sauver une fille, pourquoi pas. Mais quand on regarde la collection de livres que Fleurus propose, c'est complètement édifiant. Toute la collection Petit Garçon, c'est l'avion, le bateau, la voiture, le camion, le train, la moto, l'autocar de Gaspard, le sous-marin de Robin, le canadair d'Albert. Et tous les livres sont du même acabit, donc c'est que les garçons qui font des choses et qui conduisent et qui sont forts et qui vont vite avec des sous-marins, avec des fusées. Ils sont super, ces garçons, décidément. Et les filles attendent patiemment dans les maisons en feu que les garçons courageux viennent les sauver.
Vous lui dites quoi, votre fils ? T'as le droit de pleurer ? T'es pas obligé de jouer au foot, tu peux jouer à la poupée.
Non, je n'induis même pas le fait que ça soit différent d'un homme et une femme. Il veut jouer à la poupée, il joue à la poupée, pas de problème. On danse dans le salon, on danse, on fait. C'est comme l'enseignement pour moi. C'est que dans le faire que ça s'inscrit.
Donc l'éducation, c'est la clé.
Ah oui, l'éducation, c'est la clé. Mais mon sens, c'est qu'il y a quelque chose de terrible qui vient à contre-courant de toute la meilleure éducation qu'on pourrait faire. C'est la société et la culture dans laquelle on baigne.
On va faire une pause parce que vous avez eu une alerte sur votre téléphone. Vous devez emmener le doudou à votre fils.
Oui, oui. Sans son doudou, il ne peut pas faire sa sieste. Donc je vais filer, lui donner le doudou et revenir tout de suite.
Pimpon, pimpon. Vite, Léon. Les flammes dévorent la maison. Et Julie ne peut plus bouger. Il faut la sauver. Soudain, l'eau jaillit du long tuyau. Et le feu s'éteint aussitôt. Et Julie est enfin sauvée. Bravo, 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 Léon.
Ça y est, les élèves sortent.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez donner ça à mon fils ? C'est son doudou, sinon il ne peut pas dormir sans pour la sieste.
Roland Gory, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, auteur notamment de La logique des passions chez Flammarion.
Tout à fait.
Comment inscririez-vous le mouvement MeToo dans l'histoire du combat pour l'égalité homme-femme ?
MeToo, incontestablement, c'est, à mon avis, moins la cause aujourd'hui d'une mutation des mœurs que le symptôme d'un changement dans la culture où nous prenons conscience qu'on ne peut absolument pas être libre tant que d'autres sont dans les fers. Si vous prenez l'affaire Weinstein, si vous prenez l'affaire Desca ou si vous prenez d'autres affaires Epstein, etc., vous constatez que c'est moins de sexe dont il s'agit que de rapport d'humiliation, de rapport de réduction de l'autre à être un organe et un objet. Ces femmes harcelées ou agressées sexuellement, elles sont chosifiées. Ce que ça signifie aussi, c'est que les femmes ne sont pas, à ce moment-là, reconnues dans le même droit que les hommes. Je crois qu'il y a aussi, il faut bien le dire, du côté de ces mâles dominants, une très mauvaise habitude culturelle et sociale, l'éternelle question de la peur du féminin. La peur du féminin en l'homme, puisque comme vous le savez, enfin puisque vous avez annoncé que je suis psychanalyste, n'est-ce pas, personne n'étant parfait, je suis bien obligé de dire que chaque être humain est bisexuel fondamentalement. Psychiquement, il est bisexuel, il est à la fois homme et femme, et que par conséquent, le mépris des femmes ou la réduction des femmes à être des objets à consommer ou des objets de spectacle est quelque part aussi lié à une maltraitance que les hommes peuvent avoir à l'égard de ce qui les constitue dans leur féminité, c'est-à-dire dans leur capacité d'accueillir, dans leur capacité d'être et pas seulement de faire. Donc c'est là où tous ces mouvements ont encore une fois une valeur de message d'émancipation tout à fait formidable, mais en même temps révèlent aussi l'ambiguïté de notre société qui fait l'éloge de la force, qui fait l'éloge de la compétitivité, qui fait l'éloge de la production, qui fait l'éloge du faire et qui oublie peut-être quelque part le prendre soin, qui oublie quelque part l'être, qui oublie quelque part la capacité de créer et d'accueillir.
Quand on se dit fuck, je te défonce la gueule, tout en insultant les papas, les mamans. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on se dit fuck, mais qu'est-ce qu'on attend?
Pour lutter contre les habitudes culturelles, c'est donc à la source qu'il faut remonter. C'est dans l'éducation des enfants qu'il faut déconstruire les stéréotypes sexistes. Direction le collège de La Pléiade à Sevran, en Seine-Saint-Denis, où Géraldine Allot a assisté à un cours d'éducation à la sexualité consacré au consentement.
Interception.
Où l'on se rend compte que les notions les plus élémentaires ne sont pas forcément partagées, même par les plus jeunes.
Sur France Inter.
C'est vrai, tu t'es fait belle et tout pour la radio? Waouh! Allez, on y va, on rentre. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez pouvoir mettre vos sacs là sur les côtés. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer dans le cercle. Alterner une fille et un garçon. Allez, les sixièmes, on s'installe. Tiens, tiens, jeune homme, tu vas te mettre là-bas, s'il te plaît.
Vous êtes la professeure de SVT.
Tout à fait. Je suis Aurélie Boccaccini et donc aujourd'hui, on va
cette chaise-là,
réaliser
elle est prise.
Une séance d'éducation à la sexualité sur la thématique des émotions et du consentement.
Vous serez accompagnée de vous, madame, vous êtes l'infirmière scolaire?
Oui, c'est bien ça. Donc, je suis madame Machou, donc infirmière scolaire donc au collège de la Pléiade depuis, donc là, c'est ma quatrième année.
Mégane Machou?
Oui, c'est bien ça.
Donc, on va assister avec vous à cette séance?
Oui, d'accord, très bien.
Viens alors, où est-ce qu'on en est?
Tu n'es pas encore assise? Allez. Hop.
Oui, bah, quand le nombre ne va pas, allez, voilà.
Donc regardez, là, on vous propose de décortiquer une bande dessinée. Et donc, on en vient à la notion de consentement qui est illustrée sur cette vignette. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de cette vignette qui définit le consentement? Oui, ils sont d'accord sur la même chose. Très bien. Vous avez les deux points du consentement, c'est avoir envie et effectivement être d'accord. Et quel geste on peut qualifier d'agression sexuelle? Un geste assez courant, je dirais, mais qui en fait est une agression sexuelle.
On peut la
toucher. Quelle partie? Tassim, toucher quelle partie? Bah, est-ce que si tu me touches le bras sans mon consentement, est-ce que c'est une agression sexuelle?
Non,
pas le bras. Pas le bras. Alors, quelle partie?
Sa partie intime de devant.
Sa partie intime de devant. Tu veux dire ses seins? Tu veux dire son sexe alors?
Ce qui est entre ses jambes.
Oui. Ok, donc son sexe. D'accord. Aya.
Sa poitrine.
Sa poitrine, oui. Chut, s'il vous plaît.
Toi, Ramata, qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces questions autour du consentement?
Ben, c'était bien parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas.
Comme quoi, par exemple?
Le non-consentement, c'est quand la fille elle dit non, mais le garçon il dit oui. Il est obligé de respecter ses choix.
Ça, tu le savais déjà ou tu l'as appris aujourd'hui ?
Je l'apprends aujourd'hui.
Il y a 2 ans, il y a eu un grand mouvement sur les réseaux sociaux qui s'appelle MeToo. C'est parti des États-Unis et c'est venu en France où de nombreuses femmes ont dénoncé des agressions sexuelles ou des comportements inappropriés de la part d'hommes qui pouvaient parfois faire des réflexions complètement déplacées. Est-ce que vous en avez entendu parler de ce mouvement-là ?
Non.
Oui. Sabina ?
À la télévision. Il y avait plusieurs femmes qui allaient devant des commissariats ou des choses comme ça pour aller dire que leur mari leur tapait tous les jours et qu'ils en avaient marre.
Est-ce que du coup, les séances comme ça, vous pensez que ça peut aider ? Vous êtes des adultes en devenir, pour l'instant vous êtes des adolescents. Ça peut vous aider, notamment vous les filles, pour votre future vie de femme ?
Mais ça dépend aussi des garçons, hein. Parce que nous, ils peuvent nous taper aussi, hein. Ben sinon, pour les filles, pour moi en tout cas, oui.
Vous avez déjà eu des problèmes avec des garçons, de harcèlement ou de remarques déplacées ?
Oui.
Ah, je sais pas.
Dans la rue, il est là, il dit « Oh, t'es belle comme de la crème fraîche. » J'ai pas compris, moi.
Ah, Patouche, je comprends que tu sois tout feu, tout flamme. Hey, tu m'écoutes ? Une relation épanouie ne se conçoit que dans un consentement mutuel, t'es bien d'accord ? C'est important d'apprendre à se connaître, d'être amis. On pourrait peut-être commencer par s'envoyer des emails. C'est vrai que je suis sur vos pieds en ce moment, mais je réponds toujours aux messages. Voilà, je sais pas que je m'ennuie à mes leurs dons. Eh, touche pas, c'est ma queue ça ! C'est ma queue à moi, c'est ma queue, mon perso ! C'est privé ! Je t'ai pas donné la permission !
Excusez-moi, la tour Kennedy, vous savez où c'est ? C'est laquelle ? C'est juste celle-ci, là ?
Ouais,
ok, merci, merci. Nous venons d'arriver dans les quartiers nord de Poitiers. Il pleut des cordes ce soir et nous avons rendez-vous avec Anne Vanift-Morel. C'est la directrice d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Sans Titre Production. Elle organise des stages d'autodéfense. Elle apprend en fait aux femmes à se défendre verbalement, mais aussi physiquement. La méthode vient du Canada.
Bonjour. Est-ce que c'est ici le stage ?
Oui, c'est là.
Le stage se déroule dans une résidence pour jeunes travailleurs et il y a ce soir une vingtaine de participantes.
Alors, un mythe encore, le mythe de « si je me défends, ça va exciter l'agresseur ». C'est un mythe télévisuel, comme le fait qu'une fille qui se prend une claque tombe et qu'un mec qui prend 10 coups de poing se relève. C'est aussi des images véhiculées. Après, il faut aussi essayer de voir quel est le type d'agression ou quel est l'état de l'agresseur. Bien évidemment, si c'est une agression d'escalade, c'est-à-dire qu'il manque plus qu'une allumette pour que ça pète, ça aussi, c'est apprendre à le repérer. Il ne s'agit pas d'aller vers la confrontation.
Un petit coup de tigre, allez, pour se faire du bien.
Ah, allez, on est parti encore une fois. Nature. Non, faut lâcher. Hein.
Anita, vous avez 24 ans, vous êtes en stage d'assistante sociale. Mm-hmm. Pourquoi vous avez choisi d'être ici ce soir à ce stage ?
En tant que femme, on est confrontée à des choses désagréables, des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Et on essaye un peu de trouver des solutions pour mieux vivre. Parce que ce sont des choses qui, moi, personnellement, me pourrissent la vie.
Donc ce sont des hommes qui vous font des réflexions. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Oui, ce sont des hommes qui nous font des réflexions. Quand ils sont, par exemple, en groupe, on a... C'est pas que des réflexions, des fois on a peur de passer, il y a aussi le regard. C'est pas un regard normal, hein. C'est un regard insistant qui peut parfois mettre mal à l'aise. S'il y a des stratégies à mettre en place pour justement passer outre et faire abstraction, pourquoi pas ?
Et qu'est-ce que vous avez retenu justement de ce stage ?
Faire face, éviter de refouler du coup ses émotions et les accepter.
Est-ce que vous avez entendu parler, Anita, du mouvement MeToo et Balance ton porc il y a 2 ans ?
Alors Balance ton porc, oui, mais MeToo, non.
Pour vous, ça a été utile ? Ça a été une sorte de révélateur ?
Oui, parce que du coup, ça a permis de mettre en avant des sujets qu'on n'osait pas forcément parler. Et c'est tant mieux pour nous et pour tout le monde. Parce que du coup, ça nous fait sortir un peu de l'ombre. On est moins invisible. Plus on est visible et plus on est en sécurité.
Je crois que vous devez y aller.
Ouais,
on vous remercie. On peut s'applaudir.
Anne von Ift-Morel, donc c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure dans le stage. Il y a quelque chose d'étonnant dans le stage que vous menez, c'est que vous dites aux femmes « défendez-vous », alors que jusqu'à présent, la petite musique, c'est « faites le dos rond ». Selon vous, une femme, face à du harcèlement sexiste ou face à des violences sexistes, doit se défendre et peut se défendre ?
C'est-à-dire que ma propre expérience, c'est que j'ai dépensé beaucoup d'énergie et les femmes dépensent beaucoup d'énergie à gérer les frustrations de ne pas se défendre. Voilà, le fait de se défendre prend moins d'énergie que de gérer tout ce qui est oppression intégrée. Et donc de libérer ces belles énergies qui est de dire, voilà, un non me coûte moins que d'avaler quelque chose que je vis par crainte.
Ça fait 12 ans que vous proposez ces stages d'autodéfense verbale, émotionnelle. Est-ce que MeToo a changé quelque chose ?
Ces stages sont plus demandés qu'avant MeToo, parce que les personnes ont brisé le silence. Et c'est la question du modèle qui est très importante. Parce que des personnes connues l'ont fait, ben, des personnes inconnues se disent que, ah oui, c'est pas à cause d'elles, parce que le problème, c'est toujours l'histoire de la culpabilité, il n'y a pas de fumée sans feu. Et s'il m'est arrivé quelque chose, c'est bien que quelque part je l'ai cherché. Et à partir du moment où des personnes connues et un flot de personnes disent ça m'est arrivé aussi, ben, en fait, ça permet à tout un tas de personnes de dire à quel point c'est pas normal, et déjà de s'en apercevoir. Qu'une agression sexuelle ou d'une agression sexiste, parce que l'agression sexiste est la dilution d'une agression sexuelle et fait exactement les mêmes choses au niveau du cerveau. Donc, ça libère la parole autour de ça.
Donc finalement, on pouvait penser que MeToo, c'était vraiment un phénomène très médiatique venu des États-Unis, mais il irrigue même jusqu'ici dans un foyer de jeunes travailleurs dans les quartiers nord de Poitiers.
Oui, tout à fait.
Mademoiselle, vous êtes charmante. Alors, on fait connaissance ? C'est quoi ton numéro ? Ta petite jupe, là, c'est pour moi ? T'es bonne, tu sais, tu m'excites. Mais réponds, sale chienne.
Stop, ça suffit. Le quotidien des femmes ne doit pas ressembler à ça.
On vous retrouve, Roland Gory, on vous a entendu un petit peu plus tôt dans ce reportage, donc vous êtes psychanalyste. Depuis 2018, la loi Schiappa sur le harcèlement sexiste punit de 90 euros d'amende les outrages contre les femmes. Il y a eu en un an un peu plus de 700 contraventions qui ont été dressées. Est-ce que pour vous, c'est une avancée ?
Oui, c'est une avancée dans la mesure où la loi reconnaît une égalité dans l'espace public de tous les individus, quel que soit, encore une fois, leur sexe. Mais la loi, ça peut pas suffire. Si simplement vous modifiez votre comportement par rapport à la loi sans avoir l'intention morale et affective de le modifier, il suffira de supprimer la loi pour que les comportements abusifs antérieurs recommence.
Et là, en l'occurrence, s'il n'y a pas un policier pour verbaliser en flagrant délit, il n'y aura pas de contravention. C'est une toute petite partie du phénomène qu'on voit à travers cette loi et ses contraventions.
Oui, c'est une toute petite partie du phénomène. Et puis, encore une fois, je crois que la loi, c'est formidable, mais il ne faudrait pas que cette loi vienne en lieu et place de l'éducation, vienne en lieu et place de la morale, vienne en lieu et place du débat public.
Roland Gory, est-ce que vous pensez qu'un jour en France, on aura une société où les jeunes femmes prendront les transports tard le soir sans avoir peur de se faire embêter, ou de marcher dans la rue à une certaine heure en jupe sans avoir peur, encore une fois, de se faire alpaguer ? Est-ce que ça, c'est une société qui sera possible dans quelques temps ?
Je crois qu'il n'y a pas une flèche unique de l'histoire dans le sens du progrès. Nous avons déjà assisté à des moments de régression. Nous avons déjà assisté à des lois qui ont condamné la position d'émancipation des êtres humains, dont les femmes. Nous savons simplement une chose qui est extrêmement importante. C'est que c'est au moment, dans une société donnée, à une époque donnée, où est reconnue la position d'égalité, de liberté d'un être humain qui s'appelle les femmes, pour aller vite, c'est à ce moment-là que vraiment les révolutions ont porté au plus haut leur message. Que vous preniez 1789, que vous preniez 1830, 1848, etc. C'est à ce moment-là que le message a le plus porté, et malheureusement, le couvercle de l'histoire est souvent retombé sur ces moments d'émancipation. Donc c'est à cela que nous devons réfléchir. Hommes et femmes, nous sommes aujourd'hui à devoir soutenir le défi d'une nouvelle liberté.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
Baby, it's cold outside.
This evening has been
hoping that you drop
so very nice.
Me Too, une révolution au quotidien, c'était un reportage de Géraldine Allot, disponible à la réécoute sur franceinter.fr. Prise de son Gilles Gallinaro, réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier, mixage Claude Niort. Géraldine Allot qui vient par ailleurs d'obtenir le grand prix du reportage de Radio France pour Homophobie, la sale parole libérée, émission diffusée le 17 février dernier et naturellement également disponible à la réécoute. La semaine prochaine, reportage sur l'agribashing. Gaël Joly nous présentera des agriculteurs qui en ont marre d'être accusés de tous les maux, traités de pollueurs au mieux et au pire, agressés sur leurs exploitations.